Pierre Yang, bonjour.
Bonjour madame.
Alors, dans quelles circonstances, après 10 ans en France, avez-vous été amené à retourner en Chine ?
Moi, je suis venu en France il y a très longtemps, mais peu avant le grand massacre de 89. Et de ce fait, comme beaucoup de Chinois qui se sont jamais trouvés sur la place Tiananmen à ce moment-là, mais qui s'est trouvé en dehors de la Chine, aux États-Unis ou en France, en Europe, ont été impliqués dans cet événement et certains d'entre eux n'ont pu rentrer en Chine pour des raisons politiques et j'étais l'un de ces gens-là. Ce qui fait que pendant presque 10 ans, j'ai été contraint de rester en France. J'ai pu rentrer en Chine parce que la situation, la mienne, a changé. Et comme la plupart des gens qui franchissent le cap de 40 ans risquent de recevoir un coup de fil dans la journée ou la nuit annonçant le décès de ton père, c'est ce qui m'est arrivé et ce qui me permet de retourner là-bas.
Alors pourquoi vous avez attendu plus d'une dizaine d'années avant de passer à l'acte d'écriture ?
C'est pas tout à fait ça. En fait, bon, faut reconnaître que moi, je pense que j'ai jamais eu de véritable vocation professionnelle. Mais mon premier livre, je l'ai essayé d'écrire il y a 20 ans. J'ai eu mon premier manuscrit il y a 20 ans. J'ai même essayé de le proposer aux éditeurs. J'ai pas persisté. Et puis, pire, c'est que j'ai pas continué à écrire. Et c'est vrai que la reprise a été difficile. J'ai essayé et voilà, j'ai attendu des années pour pouvoir reprendre l'écriture.
Alors on retourne en 1989, vous étiez membre de la Fédération pour la démocratie en Chine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnait ce mouvement ?
Vous êtes bien renseigné. C'est vrai que j'ai fait partie de cette Fédération pour la démocratie en Chine qui a été fondée au lendemain du massacre en 90. C'était un mouvement démocratique composé de ceux qui ont pu fuir la Chine à cette époque-là et de ceux qui vivaient à l'époque à l'étranger comme moi. Et c'était un mouvement puissant à l'époque qui était considéré comme un mouvement très très dangereux, contre-révolutionnaire par Pékin. Ce qui fait que, voilà, je me suis trouvé coincé, entre guillemets, en France, sans pouvoir retourner en Chine. Et malheureusement, ces mouvements s'est peu à peu, dissipé. Il y a encore quelques membres, je crois, qui continuent, mais les Chinois d'outre-mer, il me semble qu'ils ont du mal à s'entendre, à s'unir, ce qui fait qu'il y a toujours autant de contestataires, j'imagine, sinon plus, mais ils ne sont plus dans un mouvement unique et uni.
Et ce mouvement était un mouvement international ?
C'était un mouvement international, ça reste un mouvement international, sauf que ce n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui.
Alors, nous sommes dans l'an 2000 et vous débarquez à l'aéroport de Pékin au moment du Nouvel An chinois. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous posez le pied sur votre terre natale pour la première fois depuis si longtemps ?
Ah, vous parlez du narrateur de ce livre. Effectivement, déjà, pour avoir le visa du retour, c'était un moment difficile et très tendu lorsqu'on attendait au guichet dans un consulat de Chine à l'étranger. Et tout le monde n'a pas eu, en tout cas facilement, ce visa de retour. Et quand on arrivait là-bas à l'aéroport, même aujourd'hui, quand moi j'y vais à l'aéroport, au moment de passer la frontière, quand on regarde le policier frontalier, c'est jamais facile, parce que on ne sait pas si on t'arrête, on ne sait pas si on te dit tout simplement de rentrer en France. C'est pas facile. C'est un passage difficile, même aujourd'hui.
Donc on n'a jamais l'esprit tranquille.
Jamais. Ni à l'aéroport, ni après l'aéroport.
Alors c'est dans le Hebei, la province où vous êtes né, que commencent les surprises avec l'accueil qui vous est réservé, enfin qui est réservé au narrateur de votre livre « Démons nocturnes ».
Le narrateur n'est pas le seul à avoir connu ce genre de situation, ce genre d'aventure. Je pense que la plupart de ceux qui ont eu un passé comme ce narrateur ont connu une situation similaire. Mais bon, c'est vrai que c'était pas facile de vivre ces situations, c'était tout nouveau, mais au fond, c'était pas si dangereux que ça, parce que les agents de sécurité étaient là à la fois pour te protéger, mais surtout pour te suivre, pour avoir un peu plus d'informations, pour te surveiller un petit peu, mais ils étaient là, si tu as eu le visa de retour, ça veut dire qu'en principe, tu n'aurais pas trop d'ennuis. On connaissait un peu ce genre de jeu. Même aujourd'hui, il y a des agents qui sont parfois des amis qui t'invitent à prendre un thé, comme on dit. Inviter à prendre un thé, c'est pour te dire qu'on est là, pour te dire aussi qu'on n'est pas fâché. C'est aussi pour te dire que, quand même, il faut un peu attention, quoi. Voilà, c'est ce genre de relation qu'on peut avoir avec les autorités.
Alors, quand vous arrivez dans votre ville, vous ne la reconnaissez pas parce que tout a changé.
Ah, ça, c'est difficile de reconnaître un pays qui évolue de jour en jour, d'autant plus que le narrateur n'est pas retourné pendant 10 ans. À titre personnel, sans parler du narrateur, j'ai pu rentrer, mais je me suis trompé parce que j'ai pris un billet de train pour une autre destination, alors que les gens de ma famille me disaient « Ah non, aujourd'hui, chez nous, il y a aussi le chemin de fer, je ne savais pas. »
Tout va très vite, effectivement. Donc le narrateur retrouve son père très malade, toute sa famille, etc. Et là, les souvenirs remontent à la surface, un petit peu comme des bulles de mémoire qui éclatent au grand jour. Et par exemple, les années 70, où la mort de votre grand-mère se superpose avec la fuite de Lin Biao.
Ah oui, ça, c'est comment dirais-je, je me souviens, là, c'est assez... c'est une fiction, ce livre, mais bon, il est composé des souvenirs personnellement vécus par l'auteur, et ça, c'en est un, je le reconnais, et je me souviens très bien, parce que j'avais quand même 6 ou 7 ans, je ne sais plus, et c'était un jour tout à fait spécial, parce que je ne savais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, la seule rue était complètement déserte, et ma grand-mère, qui a eu... une hémorragie de l'estomac, est tombée dans la rue et, heureusement et malheureusement, trop tard, un passant l'a vue et c'était trop tard. Elle est morte, sans doute étouffée par le sang, hein, avec sa petite fille dans les bras, qui avait quelques mois, je crois. Et c'est après que j'ai appris que c'était un jour spécial parce que tous les Chinois étaient convoqués dans les réunions politiques pour leur annoncer la mort du maréchal Lin Biao, qui était successeur désigné du parti du président Mao. En fait, Lin Biao, le maréchal Lin Biao, était mort bien avant ce jour-là.
Et c'est donc pour ça qu'il n'y avait personne dans les rues.
Voilà, il n'y avait personne dans la rue.
Alors, dans votre livre, on parle du père, du narrateur, qui est parti travailler sur le troisième front. Alors, que signifiait ce troisième front?
Le troisième front, dans les années 60, une partie des années 70, il y avait une vraie psychose de la guerre, non pas sino-américaine, comme on pourrait le craindre, mais sino-soviétique, parce que les Chinois étaient fâchés avec les Soviétiques, et pour se rallier un peu plus tard avec les Américains. C'était leur stratégie internationale. Alors, pour donc préparer le plan de guerre, le pays était divisé en trois parties. Premier front, première ligne, les côtes. Deuxième ligne, les régions plus ou moins côtières. Et le troisième front était la Chine de l'intérieur. Donc, la Chine de l'intérieur était difficile d'accès. Et il fallait construire des usines d'armement, par exemple, tout ce qui était stratégique. C'est l'arrière, hein, le pays de la Chine. Donc il fallait construire une ligne de chemin de fer pour accéder à cette Chine de l'intérieur. Les Chinois, non pas seulement de cette région, mais les Chinois d'autres régions, étaient également mobilisés pour la construction de cette ligne de chemin de fer. Parmi ceux qui étaient mobilisés, il y avait ceux qui étaient plus ou moins considérés comme des droitiers, comme des éléments mauvais de la société, dont le père du narrateur.
D'origine paysanne, donc, votre père était calligraphe et sculpteur. Dans un autre temps, il aurait pu être lettré.
Oui, c'est la tradition des lettrés, c'est le destin des anciens lettrés qui étaient en même temps mandarins. Mais c'était un lettré dans sa tête, dans son esprit, puisqu'il a eu la chance d'être envoyé à l'école. Il était le seul fils. J'ai jamais su combien ils étaient, hein, frères et sœurs, parce que en fait, c'était la notion de la grande famille. Les cousins faisaient partie intégrante de la famille. Et puis, les filles, une fois mariées, ne font plus partie de la famille. Il y a aussi les filles qui ont été confiées aux oncles, etc. Donc c'est compliqué de savoir qui étaient ses frères et sœurs de même parent, d'autant plus que même les parents, c'est pas clair. Il peut y avoir un oncle qui a fait un enfant avec la mère, etc. C'est très compliqué. Et souvent, pendant que les parents, le père en l'occurrence, était vivant, les secrets étaient gardés. Mais peu après la mort du père, il y a des secrets qui... il y a eu beaucoup de fuites d'informations. J'ai appris beaucoup de choses, mais comme on dit, il faut laver le linge sale en famille.
Alors justement, vous avez eu une enfance heureuse dans cette famille et sur fond de révolution culturelle.
Comme beaucoup de Chinois, comme tous les Chinois de ma génération. Et je souhaiterais souligner le fait que les gens de ma génération, c'est-à-dire ceux qui ont vécu une partie de la révolution et qui ont vécu aussi la réforme, c'est-à-dire l'époque post-maoïste, cette génération a une particularité parce que justement ils ont vécu un, la révolution culturelle, et deux, la période post-maoïste, mais ils ont surtout vécu la transition, ce qui est intéressant. Et je qualifie ces générations de 78-ards. Pourquoi 78-ards? Parce que l'année 78 est une année charnière où, entre autres, l'ancien système de concours a été restauré. Donc, je parle de ceux qui ont pu entrer à l'université via ce concours de 78. Donc aujourd'hui, par exemple, ces gens-là ont à peu près entre 55 et 60 ans, autour de 55 ans. Ils sont ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Ils sont cadres, professeurs, chercheurs en Chine, soit à l'étranger, professeurs ou réfugiés ou dissidents, etc. Donc c'est des générations qui a été importante dans l'histoire récente de la Chine et qui, qui a vécu les deux périodes et qui, qui est une génération très lucide. Par rapport à la génération, enfin, je pense notamment aux jeunes qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, qui ne savent pas du tout ce qui s'est passé en fait pendant la révolution culturelle.
Et c'est la génération qui a construit la Chine contemporaine.
Les 78ards, oui, c'est la génération qui a construit la Chine d'aujourd'hui.
Et vous, vous êtes un 78ard?
J'ai la chance d'être parmi eux, oui.
Dans l'enfance, vous avez connu la solitude et la faim.
Oui, j'ai connu la solitude avec plaisir. J'ai connu la faim avec moins de plaisir. Mais justement, cette faim nous a suscité, comme je le décris dans ce livre, à faire plein de choses, plein de conneries, et ce qui nous a donné beaucoup de joie et de bonheur.
Effectivement, c'était une enfance heureuse, comme je le disais tout à l'heure. Alors, au moment du retour au pays, vous replongez dans les rituels de toujours. Et quelque chose qui m'a étonné, c'était cette idée de faut-il ou non ouvrir la porte en grand au moment du nouvel an.
Oui, c'est une tradition qu'on continue à respecter, mais en fait, la Chine, elle est grande, les traditions se varient d'une région à une autre. En tout cas, c'est une tradition de ma région, c'est d'ouvrir la porte, de bien fermer la porte, de garder la porte fermée avant l'ouverture. Et ensuite, il faut bien ouvrir. Ça veut dire que avant l'ouverture, avant l'arrivée du nouvel an, il faut bien garder les trésors de l'année qu'on a récolté. Et quand l'heure est venue, il faut ouvrir pour en accueillir d'autres.
C'est un beau symbole, en tout cas. C'est aussi le moment du nouvel an où vous rencontrez le démon nocturne.
Oui, parce que le nouvel an, en tout cas pour les enfants, c'est la nuit. D'habitude, les enfants sont couchés avant la tombée de la nuit, mais pendant le nouvel an, qui dure plusieurs jours souvent, eh ben, on a la chance de veiller. La veillée, c'est la joie. La veillée, c'est le moment où on écoute les adultes raconter des histoires. La veillée, c'est le moment où on peut avoir des tas de choses à manger, ce qui ne nous arrive pas tous les jours. La veillée, c'est aussi la peur, parce que il se passe plein de choses. Parfois, les parents, pour faire peur aux enfants, racontent des histoires de démons, et c'est pendant cette veillée qu'on a peur. Donc, mais les enfants cherchent à avoir un peu peur. Donc, la peur est excitante, quelque chose d'excitant. Donc, cette veillée-là m'a bien laissé un souvenir vraiment inoubliable.
Un bon fils, c'est celui qui part loin, disait votre grand-père à votre père. Et vous avez suivi ses conseils.
Oui, j'ai suivi ce conseil. Je continue à le suivre parce que partir de loin, quitter son village, c'est-à-dire voyager, c'est de quitter les lieux où on a l'habitude de vivre. Je continue à voyager puisqu'il s'agit aussi de quitter maintenant, dans le sens inverse, la France pour aller aux sources. Et c'est ce que je continue à le faire en suivant ce bon conseil.
Alors, dans la famille chinoise, le fils aîné a de grosses responsabilités. Dans votre cas, à un moment, il a fallu décider de la vie de votre père. J'ai trouvé que c'était tout à fait inusité comme situation par rapport à ce qui pourrait se passer en France.
Oui, j'ai un autre souvenir que je n'ai pas raconté dans ce livre. C'est que ma mère avait une camarade de classe qui est morte. Donc, c'est son fils qui est venu nous rendre visite. Il avait à peine 18 ans, il parlait de ceci, il parlait de cela. Je me suis trompé, c'est pas sa mère qui est morte, c'est son père qui est mort. Donc, il parlait de ceci, il prenait de grandes décisions. Alors, j'étais pas si jeune que ça, je disais à ma mère, mais pourquoi sa mère ne prend pas ses décisions à sa place? Ah ben, lui, c'est le fils aîné. C'est lui qui est le chef de la famille. En fait, voilà, la mère, dans la tradition, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, mais dans la tradition, la mère n'est pas chef de famille. C'est le père. Sinon, c'est le fils aîné.
Et c'est ce qui vous est arrivé?
C'est ce qui m'est arrivé.
Alors, j'ai lu aussi dans votre livre que les fonctionnaires devaient obligatoirement se faire incinérer. Par contre, dans votre famille, on n'était pas d'accord. C'est curieux, cette...
Oui, je ne sais pas à quand on remonte cette décision de ne pas se faire enterrer, en tout cas en ville, et surtout dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, c'est impossible. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'espace. C'est une obligation de se faire incinérer. Un peu comme la fameuse politique de l'enfant unique qui s'applique à tous les Chinois, certes, mais surtout aux fonctionnaires, parce que voilà, c'est plus facile de. Enfin, c'est plus facile. On essaie de faire appliquer en priorité toutes sortes de lois aux fonctionnaires, ensuite aux gens ordinaires, etc. Ce qui est toujours le cas, mais bon, à la campagne, on est loin de l'empereur, etc. C'est plus facile d'avoir accès à la terre, à l'espace, etc. Et les gens respectent plus la tradition. Mais en l'occurrence, le père du narrateur, qui était fonctionnaire, n'avait pas le droit de retourner dans son village. Mais bon, la famille a tout fait pour respecter son souhait. C'était son souhait.
Très bien. En quoi consiste justement le rituel funéraire que votre famille a pratiqué pour votre père? Je l'ai trouvé extrêmement intéressant.
Ah, ça c'est une question difficile parce que vous venez de dire au début que j'ai pas reconnu mon pays, mais surtout je connaissais pas toutes ces traditions. J'ai découvert en même temps que mon pays qui a évolué. Même s'il s'agit des traditions, mais les traditions à mon époque ont disparu. Alors justement, le premier étonnement que j'ai eu, c'est que je me suis dit, la révolution culturelle a fait la table rase du passé. Du tout. Tout est réapparu comme si de rien n'était. Alors là, la révolution, elle n'est pas si profonde que ça. Donc je ne sais pas pourquoi et quand ni comment toutes ces traditions n'ont pas... Je comprends pourquoi les gens ont voulu revenir quand ça devient possible à la tradition. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que comment ils ont pu trouver les anciens cahiers, apparemment brûlés, etc. Comment ils ont pu retrouver ces traditions, hein? Ça, c'est une question de transmission. En fait, la transmission, elle se fait d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas parce qu'on a brûlé, on a cassé, on a détruit ceci, tout ce qui est matériel, qu'on a tout oublié. Heureusement qu'ils ont gardé quand même un peu de mémoire.
Et la révolution culturelle, ce n'est jamais qu'une génération.
Ah, ça a duré 10 ans officiellement. Mais il faut plusieurs générations pour faire disparaître, faut espérer, toutes les conséquences. C'est pas facile, c'est 10 ans, mais c'est presque un siècle.
Alors, en Chine, il y a le monde yang, c'est la vie, et le monde yin, c'est plutôt du côté de la mort. Et le rituel que vous décrivez, moi je me demandais s'il était taoïste, confucianiste, chamanique, ou tout à la fois, ou tout autre chose.
Ça, c'est difficile à répondre comme question parce que m'est arrivé dans les temples. Alors, un temple bouddhiste, certes, mais quand je franchis le seuil de la porte, je vois un tapis sur lequel il y a le fameux tableau de Yin et le Yang. Souvent, tout est mélangé, on ne sait plus qui est qui. Il y a vraiment un mélange de tout. Là, c'est à la fois un peu, enfin, surtout taoïste, je crois, dans ce que le narrateur a pu décrire. C'est plutôt taoïste, mais mélangé de beaucoup de choses locales, folkloriques, etc.
Et les obsèques durent plusieurs jours. Il y a des banquets, des processions, des pétards, de la musique. C'est quand même la fête.
C'est la fête. On parle de deux choses heureuses, le mariage et la mort. Le mariage comme une chose heureuse, rouge. Et la mort, chose heureuse, blanche, vu le couleur dominante. Oui, ça dure longtemps, comme ça peut durer pas longtemps, toute une question de volonté et de moyens Alors, ceux qui ont un peu de moyens font durer la fête le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce qui est arrivé dans sa famille, chez le narrateur. Ça a duré plus ou moins longtemps.
À quoi correspond cette coutume de monter sur le cercueil qui est porté par 8 hommes?
Je ne sais pas. Le narrateur ne faisait pas ce qu'il voulait faire. Au contraire, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. C'est les villageois qui lui ont demandé de monter sur le cercueil pour montrer quoi? Pour montrer que, un, il n'a pas peur, et deux, le père est parti, mais la famille existe toujours. Le successeur, il est là. Voilà, il est là, sur la tête. C'est lui qui prend la direction.
Et il mène la procession.
C'est un peu le moment du couronnement. Il devient chef de famille.
Et justement, il devient chef de famille et chef de clan. Est-ce que cette notion de clan est toujours présente dans la Chine contemporaine?
Oui, à la campagne. À la campagne. En ville, les gens. Je veux dire, ceux qui n'ont pas connu la campagne, qui n'ont pas vécu à la campagne, ne connaissent pas ce genre de choses directement. Moi non plus. Mais quand je me suis rendu, après la mort du père, évidemment, au village, un vieux m'a montré un cahier. Il me dit, toi, tu t'appelles comment? Je dis, mais c'est pas mon nom aussi, c'est ton nom du clan. Et ton père s'appelle comment? Alors là, vous avez un autre arbre de généalogie qui est complètement de celui de vivant. Il y a un arbre de généalogie de mort, et chaque mort porte un nom qui était désigné par une personne, enfin sans doute le chef de clan, mais en tout cas c'est lui qui est initié à ce genre de choses. Il sait tout. C'est lui qui sait tout.
Et ça, c'est un rapport avec le culte des ancêtres, finalement.
La plus grande religion en Chine, c'est ni le bouddhisme, ni le taoïsme, ni le christianisme, c'est le culte des ancêtres. C'est la seule chose à travers laquelle les Chinois, qui ne croient pas en Dieu, mais qui savent d'où ils viennent et où ils vont, c'est leur Dieu, en quelque sorte, les ancêtres, parce qu'ils descendent de leurs ancêtres et après leur mort, ils vont le retrouver.
Mais en Chine, il n'y a pas de vie après la mort. Mais vous décrivez un rituel très émouvant qui est celui du pont Nai He, et ce symbole du passage entre la vie et la mort avec le pont. Vous pouvez nous en dire 2 mots?
Déjà dans le bouddhisme, les gens continuent à vivre sous forme différente.
Oui, mais tous les Chinois ne sont pas bouddhistes, vous venez de nous le dire.
Les Chinois ne sont ni bouddhistes, ni taoïstes, ni chrétiens, mais ils sont tout à la fois un tout petit peu. Donc il y a toutes les légendes populaires qui sont parfois similaires au bouddhisme, parfois différentes, on les croit plus ou moins. Donc, aujourd'hui, les Chinois sont. C'est difficile de définir, mais ils sont un peu. Ils sont, comment dirais-je, très mélangés. Hein, on parle de syncrétisme. Ils sont trois, les trois à la fois, confucéens, taoïstes et bouddhistes. On peut même aller un peu au-delà de ces trois éléments. Ils croient plus ou moins à la vie après la mort, plus ou moins. Ils sont pas convaincus comme c'est le cas des catholiques, mais ils sont plus ou moins. Ils savent pas. C'est pourquoi que on peut dire qu'ils sont un peu poètes. Hein, ils sont un peu poètes. Par exemple, sur la stèle de la tombe de mon père, il y a deux morceaux de vers classiques. Le clair de lune entre les pins, l'eau de source sur le rocher. C'est une forme d'éternité. Voyez le clair de lune entre les sapins, l'eau de source qui coule sur le rocher. C'est tous les jours comme
C'est la
ça.
vie.
C'est la vie. C'est la vie qui continue. perpétuel. Et en même temps, c'est tout à fait serein. C'est une forme d'éternité et de sérénité pour les vivants, mais aussi pour les morts. Finalement, quelle est la différence entre les vivants et les morts ?
En écoutant ces deux vers, on ne ressent pas la tristesse qu'on peut ressentir chez nous dans un cimetière.
Ben non. Quand tu vois le clair-lune entre les pins, quand tu entends l'eau de source qui coule sur le rocher, tout est calme et beau.
Et du coup, on est heureux. On va revenir un petit peu à votre enfance. On vous appelait cuisse de poulet. Pourquoi ?
Cuisse de poulet, vous voyez, c'est, je crois que comme tous les enfants, même les Français me donnaient un surnom, hein, pour se moquer des autres, etc. Et un surnom, ça peut provenir d'un défaut physique, borgne, etc. Ou ça peut provenir d'une action qu'il a commise. En l'occurrence, le narrateur a mangé une cuisse de poulet alors que ça ne se faisait pas. Donc, tout le monde en parlait et tout le monde en riait, tout le monde s'en manquait. Et quand le bruit s'est répandu, on lui a décidé de lui coller ce surnom.
Alors, il y a une très belle histoire sur le narrateur donc, qui traverse toute l'histoire de la Révolution culturelle, qui passe à travers les mailles du filet des jeunes instruits envoyés à la campagne, parce que trop jeunes, ce qui n'est pas le cas de son frère. Mais malgré tout, un jour, votre école se décentralise à la campagne. Vous apprenez à fabriquer des briques, vous devenez un jeune pionnier, et puis vous vous intéressez à l'anglais. Alors, comment l'anglais arrive dans cette histoire ?
Alors, oui, j'ai un camarade de classe à l'université. Il a appris l'anglais auprès d'un ancien colonel nationaliste qui était interprète pour les Américains et qui a été ensuite considéré comme contre-révolutionnaire, qui a été envoyé à la campagne, là où il vivait. Heureuse rencontre. Voilà, on ne savait pas, puis ensuite la famille a découvert qu'il parlait anglais. Et il ne faut pas croire que tous les Chinois aimaient la Révolution. Ils pensaient à autre chose aussi, dont l'anglais. Parce que l'anglais, ça signifiait l'ouverture, ça signifiait un autre monde. Et il y a des Chinois qui pensaient à cet autre monde. Et certains jeunes, sous l'influence des parents étudiés, de façon clandestine, l'anglais, avec des gens comme ce colonel.
C'était Maître Li.
Par exemple.
Ça pourrait être Maître Li. Alors, vous êtes allé à l'université, grâce à l'époque des 78 heures, et c'est un film roumain qui a changé, sans le savoir, votre vie.
Ce film roumain, oui. Pendant la Révolution culturelle, il y avait quelques films étrangers. Vietnamiens, coréens, roumains, albanais. Alors, à la différence des films asiatiques, les roumains, ce sont des Européens. Et les roumaines aussi. Donc, on ne restait pas complètement indifférent à une roumaine. D'autant plus qu'il s'agissait d'une belle actrice.
C'est toute une histoire d'adolescent avec le cinéma, ça c'est partout dans le monde. Alors la seule chose que vous avez ramenée de ce voyage initiatique dont on vient de parler, c'est quelques tiges d'armoise. C'est quoi l'armoise et à quoi ça sert ?
Ça pousse partout, même en France. Alors c'est considéré comme une plante médicinale, avec ses vertus de guérison, etc. Mais c'est aussi considéré comme... c'est aussi un élément qui est utilisé dans des pratiques religieuses. Donc, avec ses vertus de purification, avec ses vertus de transmission, en l'occurrence, quand on envoie un message à l'au-delà, c'est cette plante qui fait le facteur.
On l'utilise dans le yiking.
Ça, je ne savais pas, je ne sais pas, mais c'est le farteur, en l'occurrence, c'est le farteur. C'est, quand on brûle avec ces plantes séchées, c'est un élément de Yikin, c'est un effet, ça fait un effet de transformation, dont le message matériel se transforme en je ne sais quoi, mais en tout cas, ça part très vite.
Et donc, vous avez ramené votre facteur. Comment conciliez-vous aujourd'hui l'éducation révolutionnaire de votre enfance, l'aspect irrationnel de vos traditions et la culture de la société française où vous vivez ?
Ah, ça c'est une question difficile, intéressante. Malgré tout, en France, qui est une société différente, bien sûr, mais on garde un élan, pas forcément révolutionnaire en sens, mais un élan de progrès, pour tout ce qui est progrès. Moi, je suis aussi pour le progrès politique, social, et cet élan, ça vient en quelque sorte de l'éducation que j'ai reçue là-bas. Il y a un élan. On ne peut pas rester complètement indifférent ou rationaliste quand il s'agit des humains. Par exemple, voilà, il y a des migrants qui arrivent en France, bien sûr, on peut calculer, on peut dire, oh, on n'a pas assez de moyens pour faire ci ou cela, mais il y a autre chose, il y a la dimension humaine, et quand on parle des humains, on parle avec le cœur, avec enthousiasme, d'où l'élan. Voilà, ben c'est l'un des héritages que j'ai reçus de mon enfance.
Est-ce que vous avez réussi à chasser vos démons nocturnes ou avez-vous appris à vivre avec ?
Je pensais qu'avec ce livre, ça pourrait régler le problème. Finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. On vit toujours avec.
Vous avez un projet d'autres livres ?
Oui, j'essaye. J'essaie d'écrire, continuer, pour ne pas ne faire qu'un seul. On verra.
Ce sera un roman ?
Oui. Oh oui. La fiction.
Pierre Young, merci.